Des vies françaises à présent.
Et cette semaine, dans Des vies françaises, nous partons dans l'Ain à la rencontre d'un dénommé Michel.
Oui, Michel qui s'inquiète de la façon dont sa fille, atteinte de schizophrénie, a été prise en charge en 2015 par l'hôpital psychiatrique de sa région. Portrait sonore, signé Charlotte Perry.
La situation durait depuis assez longtemps. On savait des bribes, mais on savait très peu de choses en fait. Ça aurait été diminué parce que bon, ben, parler de ma fille, c'est difficile, quoi. Faut que je me reprenne un peu.
Je vous en prie.
On s'était pas du tout rendu compte de l'ampleur de ce qui se passait. Bon, il y avait une omerta, en fait.
Je fais le marché en passant.
Bonjour.
Bonjour.
T'as trouvé un souffleur? Allez,
on va aller à la salle à manger.
Est-ce que vous voulez boire quelque chose avant de commencer? Un café ou...
Bah, je viens un petit café. Si
un petit café?
Ouais, volontiers.
Michel, t'en bois du café?
Bah oui.
C'est les montagnes là-haut derrière?
C'est le début du Jura en fait.
Alors, je suis Michel, un bénévole de l'UNAFAM de la région Rhône-Alpes.
Donc l'UNAFAM, c'est l'Union Nationale des Familles.
Des familles et amis des malades psychiques.
Donc vous, c'est votre fille hein, qui est atteinte de schizophrénie, c'est ça?
Oui, ça a été diagnostiqué à l'âge de 17 ans. En général, la schizophrénie, c'est une perte au niveau de la réalité. Et puis, le fait d'avoir des hallucinations auditives ou visuelles. Donc, on peut voir une personne qui n'existe pas, par exemple, qui est décédée. Ou on peut avoir aussi des voix intérieures qui peuvent dire à la personne de faire des choses. Donc, il y a eu des fugues, il y a eu des TS, des...
Tentative de suicide.
Oui. Donc, au début, elle était soignée par psychothérapie. Et puis, petit à petit, ça s'est, la maladie s'est chronicisée avec des épisodes violents envers le personnel, surtout de l'hôpital.
Et de là a été décidée une prise en charge sur le long terme?
Oui, de là, donc, a été mise dans des services... au long terme, ce qu'on appelle des services de suite ici dans notre département.
Ah, allez-y. Merci beaucoup.
Surtout vous servez.
Merci.
Merci. Et donc, vous, c'était en juin 2015, vous avez rédigé une lettre au contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Mais oui, mais c'était après beaucoup de démarches. Donc, je lui ai décrit ma situation et puis que je trouvais qu'au bout de 16 mois d'isolement, ma fille devait sortir de la chambre d'isolement, en fait.
Votre fille a été placée 16 mois en isolement?
Oui.
Comment vous en êtes rendu compte? Vous alliez la visiter?
Oui, les médecins me l'ont dit. Ils ont justifié le fait que, bon, au début, c'était de la violence de sa part, et puis d'autre part, à la fin de, par la suite, pour la durée, on me disait que oui, son état de santé justifiait l'isolement.
Et elle, qu'est-ce qu'elle vous disait?
Elle me disait, elle subissait la situation, en fait. Elle pensait qu'elle méritait l'isolement.
Mais du coup, qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée?
Rien. Rien. Le médecin chef ne voulait pas de psychologue, pas d'assistante sociale dans son service, pas d'activité pour les malades. Et donc, c'était pratiquement que des cachets et puis contention isolement. C'est-à-dire que la personne est entravée, elle est attachée.
Attachée des quatre membres?
Oui. Elle m'a dit qu'elle avait été contentionnée au début, oui.
Et vous pouviez la voir quand elle était à l'isolement?
Non, pas pendant les 7 premiers mois. Pour moi, c'était difficile, puisque bon, il me semblait que ce que me disaient les soignants était assez aberrant, et donc j'ai souffert énormément de cette situation. On me disait que bon, elle était trop malade ou des choses comme ça. Déjà, je pouvais pas la voir, et puis après, quand j'ai pu la voir par la suite, j'avais jamais accès à sa chambre. On peut s'arrêter deux minutes ?
Oui, vous, je vais faire une pause, oui.
Parce que bon, même parler de ma fille, c'est difficile, quoi, faut que je me reprenne un peu.
Je vous en prie.
Et donc, j'avais alerté l'UNAFAM région, et puis j'avais alerté aussi l'UNAFAM nationale. Il y a une cellule qui s'occupe des cas difficiles, donc, qui m'a aidé. La situation durait depuis assez longtemps, je ne sais pas si c'est 5 ou 10 ans ou plus, je ne sais pas. Moi, je me suis aperçu très tardivement de ce qui se passait, et puis on avait très peu d'informations, il y avait une omerta. On avait quand même des familles qui avaient peur de représailles sur leurs proches et qui n'osaient pas témoigner, puisque les témoignages importants qu'on a eus, c'était surtout au téléphone. Et en fait, on avait un coup de téléphone et après, on essayait de recontacter la personne. Elle voulait plus nous reparler parce qu'elle pensait qu'elle était allée trop loin, des choses comme ça.
Les gens avaient peur.
Les gens avaient peur, oui, des représailles sur leurs proches. C'est vraiment le contrôleur général qui a constaté ce qui se passait. Nous, on n'imaginait pas que c'était à ce point. On savait des bribes, mais on savait très peu de choses, en fait.
Le rapport a révélé aussi qu'il y avait 46 chambres d'isolement sur à peu près 400 lits.
Oui, il y avait tout un service qui était dédié aux chambres d'isolement. Ils sont aperçus, entre autres, que en plus d'isolement contention, certains malades étaient enfermés dans leur chambre pendant des longues périodes.
Vous n'étiez pas rendu compte de l'ampleur
Non, on ne s'était pas du tout rendu compte de l'ampleur de ce qui se passait.
Vous, quel rapport vous aviez avec le personnel soignant? C'était des rapports cordiaux ou tendus?
Ben, c'était des rapports cordiaux, et puis après, quand ils se sont aperçus que moi, je coordonnais les actions, tout ça, et puis qu'on était plus dans la contestation, c'était plus difficile.
Parce qu'eux ne remettaient pas en cause ces pratiques du tout?
Non, pas à ce moment-là. Pas avant la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Comment ils ont pu en arriver là?
C'est difficile d'analyser. Je pense qu'il y avait des locaux qui étaient vétustes. Il y avait un manque criant de psychiatres au niveau de cet hôpital. Donc le problème, c'est que les infirmiers étaient responsables, que c'était les seuls responsables. Et donc ça amenait à des excès parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Je ne sais pas le détail, mais il y avait une personne qui prenait l'ascendant sur tout le monde, et puis qui avait créé un système vraiment assez aberrant. Et enfin, les gens qui fonctionnaient sous ses ordres étaient étaient à la fois très soumis et puis avaient peur plus ou moins aussi de perdre leur poste s'ils leur mettaient en cause. Et c'est vrai qu'il y avait des soignants qui étaient dans un système sécuritaire, comme dans pas mal d'hôpitaux, où, à ma foi, on s'occupait au maximum de la sécurité et moins des droits des patients. Je sais qu'il y a des gens qui m'en veulent, un certain nombre qui m'en veulent, mais il y a quand même, je pense, une majorité qui sont contents que l'hôpital ait beaucoup évolué. Dans la mentalité des gens aussi, dans la prise en charge, ça a changé radicalement. Et au niveau de la loi, il y a eu la loi de 2016 qui a changé les droits sur la contention et l'isolement.
Qui a mis en place un encadrement plus strict de la contention et de l'isolement.
Oui, et puis qui a fait évoluer le droit des malades psychiques.
Et votre fille, vous, aujourd'hui, elle va mieux depuis
Ça va un peu mieux, quoi. C'est pas mirobolant, mais disons qu'elle est bien soignée, ça passe bien.
Vous pensez qu'elle va sortir un jour?
J'espère.
Voilà, et pas mal d'abus dans les hôpitaux psychiatriques, si l'on en croit la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Et un merci à Charlotte Perry et aussi à Céline Hilla pour la réalisation de ce reportage.